Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your call is a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You bellow where your fellows get played like a cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. Who you? What are you gonna do? Little boys get tamed like a shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing
it. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes le mercredi 2 avril. Il est 19h, passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, on commencera avec l'actu en bref.
Ensuite, SIDA, un nombre de contaminations stable.
70 personnes en passe d'être jetées à la rue.
Nouvelle arrestation du côté de Notre-Dame-des-Landes.
Chronique numérique.
Météo, revoilà les petites particules.
Chronique de Laurent de Labouze.
Christine Boutin, on t'aime.
Un poisson d'avril.
Augmentation du racisme en France, c'est officiel.
Faut que ça se sache.
Et l'agenda.
Things look dire, better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as the winter tail, Titus and Jonicus was bound to fail. So will you if I call I get at you, that's suicide like Annie and Cleopatra.
Ah, pardon, je commence. Alors, en bref, hier, mardi 1er avril, se tenait la conférence de presse d'annonce de la marche du samedi 12 avril à Paris de République à Nation contre l'austérité et pour l'abandon du pacte de responsabilité. Donc, cette marche contre l'austérité doit répondre à un défi, celui d'être solidaire et de proposer des alternatives à la politique actuelle. Ce qui n'est pas évident, puisque cette marche a été portée par Pierre Laurent, qui est secrétaire national du PCF, par Jean-Luc Mélenchon du parti de gauche et Olivier Besancenot, porte-parole du NPA.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Alors, cet après-midi, il y avait un rassemblement des intermittents organisé devant la tour Swiss Life à la Part-Dieu. Il y avait un peu plus de 70 personnes, peut-être 80 même, qui étaient rassemblées. C'était une petite action qui a donné lieu à une AG où il y avait pareil 70 personnes et où ils ont un peu décidé de ce qui se passerait pour la suite du mouvement. Donc mardi prochain, le 8, il y a Gataz qui va venir et a priori il y aura un rassemblement à cette occasion. Et il y a une AG qui est organisée le 9 à l'Opéra de Lyon à 15h le 9 mercredi.
Et encore dans les choses à dire en bref, la semaine dernière je vous avais annoncé pour les élections municipales en Turquie une probable débâcle électorale du parti de Erdogan. Et ben c'est raté, c'est complètement raté, ils ont plutôt tout gagné.
Alors, donc, SIDA, un nombre de contaminations stable, ça fait... les contaminations avaient diminué à la fin des années 2000 et depuis 5-6 ans, là, c'est assez stable à peu près 6000 contaminations par an. Donc, pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Simplement parce que aujourd'hui, il y a l'Institut National de Veille Sanitaire qui a publié son bulletin épidémiologique hebdomadaire. et où ça parle de tas de maladies, mais là aujourd'hui il y a un numéro spécial sur le sida et qui fait le point sur toutes les contaminations qu'il y a eu en 2012, parce que forcément les chiffres de 2013 ils les ont pas encore. Et donc ben voilà, ce qui conclut c'est que ce nombre, alors le nombre de contaminations, c'est 6400 personnes qui ont été contaminées en France cette année, comme à peu près l'année dernière et celle d'avant, etc. Et pour un pays riche qui a les moyens de la France, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que le ministère de la Santé ne bosse pas bien. Donc en fait, sur ces... Ouais, incroyable, hein. Donc sur toutes ces personnes qui ont découvert leur séropositivité cette année, il y avait 42% d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Il y avait 38% d'hétéros nés à l'étranger, 18% d'hétéros nés en France et 1% d'usagers de drogue injectable. Alors pourquoi on fait la différence entre hétéros nés à l'étranger, hétéros nés en France, etc. C'est pas forcément pour rentrer dans des catégories ethniques, etc. Mais c'est que les gens qui naissent en France... qu'ils soient de nationalité étrangère ou pas, ou d'origine étrangère, on peut supposer que dans leur parcours, ils bénéficient un peu des actions de prévention qui peuvent être organisées à l'école ou ailleurs, etc. Et que des personnes qui viennent de l'étranger, elles ont peut-être pas le même système de santé publique qui fait qu'il y a des choses qui se passent et qui fait qu'elles sont aussi informées que des gens qui sont nés en France. 1% d'usagers de drogue injectable sur toutes les contaminations, donc c'est très peu, et ça reste très peu depuis des années, depuis qu'il y a eu la mise en place de politiques d'échange de seringues stériles. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que le nombre de contaminations chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes augmente. Et là, c'est vraiment parce que on sent que c'est vraiment le gros point faible et qui a aussi beaucoup été souligné dans la mise en place du dernier plan de lutte contre le sida, qui est une espèce de plan piloté par le ministère de la Santé où ils disent « ouais, faudrait faire ci, faudrait faire ça, etc. etc. » Et le dernier plan, celui de 2010-2014, il était super bien, il y avait plein de trucs super bien à faire. Et en face, l'enveloppe qui était dédiée à mettre en place toutes ces actions, eh ben, elle était super ridicule. Donc du coup, ils n'ont rien pu faire. Donc, et c'est vrai que les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, pardon, je suis en train de m'embrouiller, c'est vraiment une population qu'on a, où il faut trouver de nouvelles manières de faire de la prévention, d'inciter au dépistage, etc. Et on sent qu'en France, on a vraiment des lacunes là-dessus. Alors, est-ce que les gens se font dépister tôt ou tard ? Eh bien, les gens, ils se font dépister... plutôt moyennement. Bon, il y a 40% de gens qui se font dépister très tôt. Et ben ces 40% de gens qui se font dépister très tôt après la contamination, c'est principalement des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Donc ça veut dire que même si c'est un groupe entre guillemets, parce que c'est un groupe un peu multiforme, même si c'est un groupe qui prend des risques, c'est un groupe qui est suffisamment informé pour aller se dépister tôt et capter qu'il a pris un risque. Et sachant que ceux qui se dépistent vraiment très 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 tardivement, c'est-à-dire que plusieurs, vraiment beaucoup beaucoup d'années après la contamination, et... mais il y a des gens qui se marrent, mais non, mais ça craint. Non, je sais pas, j'ai dit une connerie ou... Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Et du coup, les gens qui se dépistent vraiment tardivement après la contamination, en fait, c'est plutôt des hommes. Et c'est des hommes hétéros. Et c'est des hommes vieux. Plus de 50 ans. Comme si ils se sentaient un peu pas concernés, parce que le sida, c'est un peu une maladie de jeunes et tout ça. Alors bon, bah, moi, ça me concerne pas. Voilà. Alors, bon, c'est pas super réjouissant. Ça veut dire que on sait déjà... c'est pas réjouissant parce que les contaminations, elles sont toujours aussi fortes. On n'arrive pas à faire baisser les contaminations dans les endroits où il faudrait les faire baisser. Alors, pourquoi des contaminations à la hausse chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes? C'est aussi parce que, comme les gens, ils meurent moins du sida... Eh ben, il y a un pourcentage de plus en plus grand de gens séropos dans la population. Et que et du coup, comme la communauté gay a été très 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 touchée à un moment et que les gens sont pas morts, eh ben ils restent séropos. Et en gros, ça veut pas dire que forcément les gays, ils font plus de conneries que les autres, à pas mettre de capote, etc. Mais c'est quand même quand ils ont un accident de capote ou quand ils se protègent pas, ils ont quand même plus de risques de tomber sur quelqu'un qui est séropo que chez les hétéros. Et donc c'est aussi pour ça que ça veut pas, il s'agit pas du tout de pointer les gens comme des mauvais élèves, hein. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais du coup ça veut dire que le mauvais élève là-dedans c'est plutôt le ministère de la Santé dans comment il pilote son plan, parce que on n'arrive vraiment pas à faire de nouvelles actions qui permettent de toucher un petit peu mieux cette population de manière qui lui correspond. Alors je vous disais ça aussi parce que là il va y avoir l'ouverture du site d'action, donc c'est une grande campagne de dons qui a lieu les 4, 5, 6 avril, c'est tout l'argent est collecté par site d'action qui ensuite répartit l'argent selon 3 programmes. En fait il finance des associations en France qui font de la prévention ou alors de l'accompagnement aux personnes séropositives. Après, ils financent des assos à l'international qui mettent pareil en place des campagnes de prévention et d'accompagnement. Et ils financent aussi des programmes de recherche scientifique, alors que ça soit sciences dures, genre virologie, immunologie, etc. Ou alors des programmes de recherche en sciences sociales sur le sida. Et du coup, ben, par exemple, les programmes de recherche en sciences sociales, ça peut être intéressant justement pour comprendre... pour cibler des espèces de communautés, comment comprendre les pratiques des gens, comment ils vivent et qu'est-ce qui peut être intéressant à leur proposer comme truc de prévention si on veut vraiment que les gens ils arrêtent de se contaminer. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est l'ouverture. Alors si hein, vous avez la chance de tomber sur le clip de campagne de site d'action, vous allez voir comme ça ruisselle de bons sentiments. Ce qui est vraiment dommage, parce qu'on s'attendrait à un truc un petit peu plus politique et un petit peu plus rentre dans l'art, vu le sujet. Mais bon, c'est un peu une espèce de petite peluche, un petit virus du sida en forme de peluche. Et puis comme ça, on dit, on va quand même pas donner ça comme cadeau à nos enfants, parce que vraiment, ça craint trop. Donc voilà, merci. Mais bon, en tout cas, si vous avez envie de donner un peu sous, Site d'Action, c'est quand même une asso qui s'engage à reverser l'intégralité des dons aux assos. Et le fonctionnement de Site d'Action n'est pas pris sur les dons qui sont faits aux gens. En tout cas, si vous traînez dans les bars du 1er arrondissement samedi 5 avril au soir, vous aurez peut-être le plaisir de croiser les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence qui vont faire un petit tour dans les bars du 1er pour sensibiliser un peu les personnes à des questions de sida, de sexualité et pour les sensibiliser un peu à mettre la main au portefeuille pour la collecte. Et donc voilà, c'est organisé avec l'association FRIS, Femmes Réduction des Risques et Sexualité, et c'est le samedi 5 avril dans plusieurs bars plutôt a priori gay friendly, lesbienne friendly, trans friendly, mais pas que, c'est aussi dans des bars qui sont pas forcément estampillés comme ça aussi. Et donc voilà, c'est samedi 5 avril. Et j'ai fait le tour.
Urgence sociale Lyon, 70 personnes en passe d'être jetées à la rue. Donc le printemps arrive et la période de grand froid s'arrêtait ce lundi. Et donc de nombreuses personnes, familles et enfants se retrouvent à nouveau à la rue. Donc des personnes sans domicile fixe du village d'Homme ici dans le cadre du plan grand froid qui ont été accueillies cet hiver par l'ASSO, L-A-H-S-O. Donc l'association de l'hôtel social à Villeurbanne qui est au 84 rue Frédéric Faillis. Donc ces personnes stressent puisque la préfecture veut les mettre dehors. Donc hier il y avait un rassemblement qui avait été appelé donc pour s'opposer à leur mise à la rue suite à la fin de la trêve. Mais et après diverses tractations, donc la préfecture comme d'habitude propose des nuits d'hôtel mais refuse de s'engager sur des logements pérennes. Et elle voudrait... Donc ce qui a été demandé, c'est que tous les centres d'hébergement... La préfecture, elle, voudrait que tous les centres d'hébergement hivernaux soient fermés avant de mettre par écrit une improbable solution sur le long terme. Et donc, bien évidemment, les gens qui étaient là-bas ont demandé à ce que les hébergements hivernaux soient pas hivernaux mais restent tout le long de l'année. Et donc, elle menace de couper le courant. Donc, hier, elle menaçait de couper le courant ce matin. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. En tout cas, les gens appellent à un large soutien. Puisque pour soutenir les personnes à faire valoir le droit et de ne pas les laisser dormir à la rue. Voilà.
Du côté de Notre-Dame-des-Landes, des nouvelles personnes ont été arrêtées. C'est une des suites de la manifestation du 22 février. Ont été arrêtées et jugées tout de suite. Voilà, j'ai un petit communiqué qui nous vient du Grand Ouest que je vais vous lire. Le 22 février, la police mutilait et blessait gravement des dizaines de manifestants et manifestantes dans les rues de Nantes. Il s'agit aujourd'hui, 1er avril, de continuer cette guerre dans l'enceinte du tribunal, de continuer à terroriser ceux qui s'opposent à ce monde et à l'aéroport qui va avec. Dès le début d'après-midi, la salle de comparution immédiate du tribunal de grande instance de Nantes est bondée. Des journalistes sont venus se régaler de la répression qu'ils ont complaisamment attisée contre les manifestants et manifestantes. La justice, à grand renfort de couverture médiatique, a décidé de s'acharner contre les manifestants perquisitionnés et arrêtés à Nantes au lendemain du triomphe du premier flic de France. Oui, c'est ça, parce que les arrestations sont toutes récentes, quoi. Elles datent de lundi. Les dossiers sont vides. La procureure a bien du mal à camoufler l'absence d'enquête sérieuse menée par les 30 flics spéciaux qui ont été dépêchés à Nantes suite à la manifestation. La volonté de faire des exemples est évidente. Les prévenus passent en comparution immédiate sans avoir pu préparer leur défense. Après une parodie de procès dont les étapes sont écrites à l'avance, les peines s'abattent froidement sur les prévenus comme sur le public, insupportable. Une figure associative nantaise de 53 ans écope de 4 mois de prison avec sursis. Cette personne, qui n'a pourtant aucun antécédent à part celui de lutter pour le droit des sans-abri, la peine est complètement arbitraire. Le prévenu est soupçonné d'avoir envoyé vers les flics un seul des milliers de palets de lacrymogènes propulsés sur la foule à coups de lance-grenades. Voilà, deux autres manifestants soupçonnés d'avoir également résisté à la violence policière et pour l'un d'avoir récupéré un t-shirt dans le local de la TAN, là, qui est les TCL à Nantes, chacun des deux écope de prison ferme, 4 et 5 mois de tôle. Bon, alors pour eux, il n'y a pas de mandat de dépôt, ça veut dire qu'ils ne partent pas directement en prison à la fin du procès. Et le coup de marteau le plus violent concerne le dernier prévenu, qui a 23 ans, qui est un militant qui a déjà été ciblé de nombreuses fois par le passé par les flics. Il est accusé d'avoir fabriqué un fumigène. Alors que le procureur requiert une peine de 6 mois de tôle, le juge décide carrément de multiplier par 2 ses réquisitions et il propose 1 an de prison ferme. Il prononce avec mandat de dépôt, c'est-à-dire que lui il est parti direct en tôle. Perquisitionné et arrêté hier matin, il part à la prison de Nantes ce soir. Alors le communiqué date, oui c'est ça, d'aujourd'hui. Les flics évidemment présents en nombre arborent un sourire satisfait. Voilà, suite à quoi le public de l'audience est sorti défiler en cortège jusqu'au centre-ville en criant sa rage contre la justice.
Ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, les ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Alors, aujourd'hui, on va commencer avec Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg s'inquiète beaucoup des attaques contre la vie privée du gouvernement américain avec tous les scandales qu'on a connus avec la NSA. Il nous dit « Le gouvernement américain devrait être un champion pour Internet, pas une menace. Ils doivent être un peu plus transparents sur ce qu'ils font ou sinon les gens imagineront le pire. » Alors, Zuckerberg, on peut rappeler qui c'est quand même le patron et fondateur de Facebook. Et Facebook, on a quand même envie de leur rappeler qu'ils créent un tollé à chaque modification de leurs conditions d'utilisation, puisque chacune de ces modifications entraîne une destruction de la vie privée de leurs utilisateurs, tout simplement. En 2009, on rappelle que la refonte de leur politique en matière de vie privée rendait plus d'infos publiques sans que les utilisateurs puissent choisir de conserver les anciennes conditions d'utilisation ou non. En 2012, des messages privés avaient été rendus publics. On n'a jamais été vraiment certain si c'était un bug ou si c'était volontaire, parce que c'était des messages privés très anciens. Et en 2013, donc très récemment, ils ont supprimé tout simplement la possibilité de ne pas apparaître dans le moteur de recherche. Et on rappelle encore que quand même Facebook, c'est le site qui ne permet pas le droit à l'oubli encore plus que les autres. Vous pouvez toujours essayer un peu naïvement de supprimer votre compte, mais Facebook gardera toujours vos données. Alors, demain 3 avril, Nelly Kroes, qui est la commissaire européenne chargée de la société numérique, et la commission ITRE de l'industrie, de la recherche et de l'énergie font voter le rapport Pilar del Castillo. Alors, le rapport Pilar del Castillo, il permet aux opérateurs de prioriser les données. Donc, en gros, je vais réexpliquer ce que c'est que le principe des données sur le web, un peu, enfin sur le net. C'est que, du coup, il permettrait aux opérateurs de proposer des forfaits différents et limités. Par exemple, il vous permettrait d'avoir un accès uniquement au web. Et le web, contrairement à ce qu'ils essayent de nous faire croire, c'est absolument pas l'intégralité d'Internet. Le web, en fait, utilise Internet, qui est l'infrastructure globale du réseau, qui connecte tous les ordinateurs. Mais il y a beaucoup de services qui utilisent Internet. Il y a, du coup, le web qui est toutes les pages HTTP, ce qui est le plus visible, en fait, toutes les pages que vous visitez. Mais il y a aussi les serveurs mail, l'échange de fichiers en FTP, le peer-to-peer, donc le téléchargement illégal, les communications téléphoniques et beaucoup d'autres services qui utilisent toujours ces mêmes infrastructures que le web. Ce que veulent faire la commissaire européenne et cette commission européenne, en gros, c'est faire en sorte qu'il y ait des forfaits probablement moins chers, c'est comme ça qu'ils vont nous le vendre, qui vous donneront accès uniquement au web et qui vous surfactureront ou vous proposeront un forfait plus cher, voire un forfait professionnel comme c'est fait en Angleterre aujourd'hui, qui vous permettra de pouvoir avoir vos mails, de pouvoir télécharger, d'utiliser des logiciels comme Skype, tout ça avec des factures différentes. Donc en gros, c'est une attaque énorme contre la neutralité du web, la neutralité du net, qui est quand même ce qui était garanti pour l'instant, qui garantissait une égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet, quelle que soit leur source, leur destination ou leur contenu. Ce qui est, on le rappelle, ce qui permet que quand vous téléchargez un film illégalement sur avec un serveur en peer-to-peer ou n'importe comment, vous avez la même priorité qu'un mail qui serait envoyé de François Hollande à Barack Obama pour une attaque nucléaire. Ce qui est, ok, peut-être pas une bonne idée dans une certaine mesure, mais qui permet quand même que toutes nos données aient la même priorité, et ça c'était quelque chose qui était garanti jusqu'ici, et qu'ils essayent de faire sauter, donc on espère que ça ne sera pas voté demain.
Vive le capitaine.
Et juste une petite information, parce qu'on aime bien rigoler avec Windows. Windows nous parle encore du MS-DOS, donc le MS-DOS qui est quand même le système d'exploitation qui était utilisé dans les années 80-90 et à la fin des années 90 qui était juste en base de leur nouveau système d'exploitation. Donc on rappelle que le MS-DOS, c'est quand même un système qui avait été racheté à une petite société qui était une adaptation en fait du QDOS, qui est un Quick and Dirty OS, qui est un système sale et rapide. Donc c'était en gros un truc vite fait que Bill Gates a racheté à une petite société et a fait des millions avec, qui a été très utilisé et qui lui a permis de bien le rentabiliser. Et ben Windows, aujourd'hui, parce qu'ils sont très gentils, rendent le code source du MS-DOS disponible. Attention, quand même, faut pas déconner, pas en libre. Ils l'ont quand même mis sous licence destinée à la recherche, donc on aimerait bien savoir qui ça va intéresser, parce que concrètement, aujourd'hui, le DOS, qui est le système d'exploitation de Windows, c'est utilisé par personne. Tous les autres systèmes d'exploitation sont basés sur Unix, qui est la base des systèmes Linux ou Mac, et qui marche quand même vraiment mieux.
Et on va s'écouter une petite musique pour faire une petite pause.
Check you out. Let me close for an hour. I'm high as a kite, I just might stop to check to burn. And then when I'm a walking, I strike, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop, stop again, I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on.
Météo, revoilà les petites particules. Donc, alerte pollution, le niveau d'information a été activé par la préfecture aujourd'hui. Donc, pour le bassin lyonnais, le Nord-Isère et l'ouest de l'Ain jusqu'à demain. Parce qu'en fait, comme vous l'avez remarqué, il y a un vent du sud qui est vraiment très fort, qui souffle. Et qui souffle aussi dans la vallée du Rhône. Et donc, forcément, qui engendre une augmentation des concentrations de particules fines. Mais heureusement, on est sauvés, les amis, parce que l'agglomération lyonnaise vient de signer un plan de protection de l'atmosphère. Voilà. Donc, c'est bon, tout va aller mieux. Donc, c'est sur plusieurs axes. D'abord, les industries devront utiliser des technologies visant à réduire leurs émissions. Donc, d'ici à ce que ça se mette en place, d'ici 15 ans, on verra peut-être une petite différence. Autre manœuvre, des aménagements sur les autoroutes et voies rapides seront créés dans le but de fluidifier la circulation. Donc on se demande bien ce que ça peut être. Bon, voilà. Et pour terminer, dans chaque projet d'aménagement et d'urbanisme, la qualité de l'air devra être prise en compte. Pour construire des nouvelles maisons, en fait, il faudra juste une page de plus au dossier. Voilà, et à noter donc, que l'agglomération de Saint-Étienne et de Grenoble ont également signé ce plan qui ne sert à pas grand chose.
Attention, vous êtes prêts?
Et maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent de la Beuse.
Bonsoir. Alors, dimanche dernier et celui d'avant, le peuple français s'est exprimé. La démocratie a fait son travail. Le peuple souverain, la majorité, a parlé et décidé grâce aux élections municipales. Alors, petite précision rapide, le peuple français, c'est ce qui reste après avoir éliminé tous ceux qui ne remplissent pas les conditions d'âge, de nationalité et de légalité pour avoir le droit de demander une carte électorale. De cela, c'est ce qui reste après avoir fait les démarches pour l'obtenir. Et puis de tout cela, on enlève encore les 38% qui ont bêtement confondu leur carte électorale avec du papier toilette. Et enfin, de la petite partie qui reste, on enlève encore ceux qui n'ont pas mis dans l'urne de bulletin exprimé. Et c'est là qu'on obtient le peuple souverain. Celui-ci a donc profité des élections municipales pour désavouer le gouvernement PS, pour qui il avait précédemment voté, parce que celui-ci n'a pas fait une politique de gauche. Cette voix unanime de protestation a été entendue, et c'est ça la force de la démocratie. Le président de la République a annoncé dès ce lundi la formation d'un nouveau gouvernement, un gouvernement de combat. Si François Hollande a utilisé cette expression « gouvernement de combat » comme un symbole, c'est sûrement pour rassurer la France d'en bas. Cette expression a d'ailleurs été reprise par ses sous-fifres dans tous les médias. Mais où va-t-il chercher tout ça ? Le président socialiste qui, depuis 2 ans, a toujours été le représentant et même le défenseur des précaires et du prolétariat. Il y a moins d'un mois, le président de la France, Pierre Gattaz, du MEDEF, Pierre Gattaz déclarait « Il faut maintenant que le gouvernement prenne des décisions, fasse preuve de courage et de pragmatisme pour baisser les dépenses publiques et ainsi dégager des marges de manœuvre pour les entreprises et l'économie de notre pays. La France a besoin d'un gouvernement de combat. » Le petit peuple a donc décidé et un nouveau Premier ministre a été nommé. Vous le connaissez, le sauveur, pour ne pas dire le héros. Ah non, celui-là est parti. Le chaînon manquant entre Jean-Marie Le Pen, Dominique Strauss-Kahn et le prince Charles. Oui, le prince Charles, c'est justement le rapport aux oreilles. Donc vous avez donc reconnu Manuel Valls. C'est vrai que quand les écolos l'ont appris, ils étaient verts. Bon. Mais pas de panique. Le changement, c'est toujours pas maintenant. Nous sommes nombreux et nombreux. Et ce n'est donc pas par les urnes, mais plutôt par le rapport de force dans les luttes qu'on pourra toujours lui arracher des avancées sociales. Et même si ce sera pas facile, si on se bat, on pourra lui arracher, je sais pas, des augmentations de salaire, ou Notre-Dame-des-Landes, ou l'oreille. Ça, c'est plus facile, suffit de tendre le bras. En tout cas, s'il y a une chose bien grâce à Hollande, une chose sur laquelle il ne transige pas, c'est la parité. Il y avait déjà dans le précédent gouvernement autant de ministres femmes que de ministres hommes. Et attention, à des postes clés. Sûrement que vous vous en rappelez de ces femmes qui ont été des figures du gouvernement pendant 2 ans. Mais au cas où, je vais vous dire où elles étaient, toutes ces femmes, à qui on a laissé une place énorme. Il y avait Geneviève Fioraso, ministre de quoi ? Ah, on fait moins le malin, Picasso, hein ? Hein ? Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, bien joué. Alors on continue, Valérie Fourneyron ? Ministre des sports et de la vie associative, Nicole Bric ?
Agriculture.
Ministre du commerce extérieur. Sylvia Pinel. Sylvie Pinel, pardon, oulala, j'ai tellement entendu son nom. Que... Ministre du commerce et de l'artisanat. Enfin, laissons ces femmes qui sont maintenant passées dans l'histoire avec un grand H et voyons le présent et l'avenir. J'ai relevé 2 nominations de ministres qui m'ont paru intéressantes. D'abord celle de Michel Sapin, qui était auparavant ministre du Travail et qui a été nommé ministre des Finances. Comme dans toute bonne société hiérarchique, c'est au mérite qu'on gagne sa place. S'il a autant de succès dans le redressement des finances publiques que dans le redressement de la courbe du chômage, ce qu'il y a de bien, c'est que les flics vont finir par nous courser avec des trabans. Et puis, pour finir avec l'efficacité, le pragmatisme et la logique du gouvernement dans la nomination des nouveaux ministres, Madame Najat Vallaud-Belkacem a été nommée ministre des Sports, de la ville et des droits des femmes. Beau package. Voilà qui démontre l'organisation rigoureuse qu'il faut pour constituer un gouvernement. Et oui, si elle s'y connaît en droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, puisque c'est une femme, pour le reste, bon... En tout cas, si l'autre, là, le chaînon manquant entre Goebbels et Dumbo l'éléphant volant, avait continué dans la même ligne, il aurait dû nommer, après son beau succès à Pau dans le Béarn, il aurait dû nommer François Bayrou, ministre de la Défense et de la sauce béarnaise.
Alors, je vais mettre une couche un petit peu encore sur Christine Boutin.
Ouais.
Cette fois encore, Christine Boutin raconte sa life dans les colonnes du trimestriel, d'ailleurs que je ne connaissais pas, qui s'appelle Charles. Wow. Donc, l'ex-présidente donc, du Parti chrétien-démocrate s'est confiée sur sa vie sexuelle, son mariage avec son cousin et l'affaire des SK. Mais moi, je vais vous parler que de sa vie sexuelle.
Non, mais arrête de nous raconter des horreurs, là, ça va pas, non ? Éteins et coupe-lui le micro.
Alors, je cite : Je pense que la séduction reste un concept très féminin. Nous, les femmes, avons vraiment la séduction inhérente dans notre ADN. Pardon, je sais pas si je vais y arriver.
Vous imaginez Christine Boutin quand même qui dit ça.
Voilà, de façon plus profonde que les hommes. Il y a des compétitions de séduction très fortes entre les femmes. C'est pour ça que les femmes, entre elles, sont tellement dures. Surtout les femmes socialistes. C'est beau de mélanger. Si, je te jure, c'est bien de mélanger la politique comme ça. Alors, ensuite, moi aussi, je suis une pécheresse. Alors, elle va expliquer. Donc, elle donne sa vision de l'homosexualité et n'hésite pas à parler d'abomination. Donc, en mai dernier, elle avait déjà alimenté la polémique à ce sujet. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. On est envahi de gays. Donc ça, c'était quand elle avait déclaré, quand la Palme d'Or venait d'être attribuée à la vie d'Adèle. Donc il raconte l'histoire entre deux femmes. Donc là, maintenant, elle a dit « Je n'ai jamais condamné un homosexuel. L'homosexualité est une abomination. » Mais pas la personne. La subtilité du mariage pour tous. Le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné. J'ai des amis homosexuels. Ils sont pécheurs comme je le suis. On est tous pécheurs. Je suis dans le péché, moi aussi. Je suis une pécheresse. Mais vous ne me verrez jamais faire l'apologie d'un péché. C'est subtil, hein. Voilà. You're going to hell, measure for measure. I am the best here. You marry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aujourd'hui ? Eh bien, c'est que la CNCDH a rendu son rapport à Manuel Valls. Ce n'était pas entièrement prévu au moment où ils l'ont écrit, mais il se trouve que, alors qu'il a droit à quelques pages dedans. Donc, qu'est-ce que c'est que la CNCDH ? C'est la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, et c'est elle qui, entre autres, mesure un peu le racisme en France, où on en est. Donc ce rapport doit être rendu au Premier ministre. Normalement ça se passe le 21 mars, mais là parce que le Premier ministre était un peu trop occupé à préparer le fait qu'il allait se ramasser aux élections et faire ses cartons en prévision. Et bah du coup il a dit non mais on verra ça plus tard. Résultat, ils l'ont rendu aujourd'hui, ils l'ont rendu à Valls. Alors bon, en résumé, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ? Vous allez voir, c'est pas... Bon, le racisme a augmenté en France en 2013 par rapport à 2012, et c'est en constante augmentation depuis 2009. Bon, les formes du racisme changent un petit peu. Il est en tout cas plus affirmé dans les propos et dans les actes. Et puis aussi, ça dit aussi que la parole des médias et des hommes politiques, cette espèce de parole légitime, là, si elle est raciste, bah, ça renforce le racisme chez les gens normaux. Bon, vous allez me dire, c'est pas la peine de payer grassement 64 personnalités pour arriver à dire tout ça. Mais la différence, c'est que bah, quand nous on le dit là, soit dans nos conversations sur nos canapés ou au bistrot, soit à l'antenne de Radio Canu, ça intéresse pas tant de monde que ça, alors que là au moins ça fait un petit peu des titres dans les journaux. D'autant plus que la présidente de la commission, qui s'appelle Christine Lazerge, aujourd'hui a quand même bien écumé les médias et elle est vénère un peu. Bon, bien qu'elle soit socialiste, hein, attention. Alors, qui c'est dans cette commission ? J'ai cherché un petit peu pour être en mesure de vous le dire quand même. C'est des gens de la société civile, des gens d'associations de défense de droits de l'homme, des représentants des syndicats, des experts qui siègent dans des instances internationales sur les droits de l'homme. Et puis, il y a un député de l'Assemblée nationale, un député du Sénat, un membre du Conseil économique et social et le défenseur des droits. Voilà, c'est parce qu'on parle toujours de commission, mais on ne sait jamais qui est dans les commissions. À des moments, c'est agaçant un peu. Alors, donc cette Christine Lazerge ne mâche pas ses mots à l'égard du gouvernement en général. Elle fustige son manque d'engagement en matière de lutte contre les discriminations. Le gouvernement, dit-elle, n'a fait preuve jusqu'à présent d'aucune audace, c'est le moins qu'on puisse dire, pour contrer les discours populistes. Bon alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, la commission s'attarde sur les points suivants. Alors bon, ils font tout un truc sur les attaques racistes contre Taubira, qui c'est aussi qu'elles ont trouvé un grand écho au moment où ça s'est passé. Bon, ça on va pas revenir dessus, hein, tout le monde est au courant en long, large et en travers. Bon alors, pour la suite de ce que je dis, on a un petit peu des données chiffrées. Alors les données chiffrées, elles sont à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'elles reposent sur les statistiques des plaintes qui ont été déposées. C'est-à-dire que, enfin, on va aussi revenir dessus, mais... Alors, la bonne nouvelle, ça serait l'antisémitisme qui, alors malgré tous les sorales, les dieudonnés et compagnie, là, l'antisémitisme a plutôt carrément diminué, moins 31% du coup en termes de plaintes, hein, mais quand même... Et du coup, ce qui est mis en relation avec la suite, là, montre bien que la parole du gouvernement, des hommes politiques, des médias, tout ça, est quand même assez déterminante pour donner un cadre de ce qui est légitime ou pas de penser et de faire, quoi. Et de dire. Parce qu'à côté de ça, par contre, les propos et les actes anti-musulmans, alors ça, on a plutôt une augmentation de 11% rien que cette année. Et donc, revenons-y, c'est 11% des plaintes qui sont déposées. En sachant que par ailleurs, la commission le constate elle-même, hein, il y a un certain nombre de musulmans qui préfèrent ne pas se rendre chez les flics, même quand ils ont subi des propos ou des attaques islamophobes, parce qu'ils sont pas entièrement sûrs d'y être très bien reçus. Et enfin, là non plus, ça va pas nous surprendre énormément, la population qui est le plus en butte au racisme en France, c'est les Roms. Pour le reste des données, c'est qu'il y a les données chiffrées et après il y a des données qui ont été qui reposent sur des entretiens que la commission a menés. Bon voilà, je vais continuer un peu. C'est un petit peu des banalités, mais qui sont voilà, qui cette fois-ci qui sont apportées par une commission qui a fait des recherches de façon quasiment scientifique, on pourrait dire. Donc la crise favorise la recherche de boucs émissaires, les faits divers aussi. Donc selon les auteurs du rapport, ces histoires de racisme, ça dépend de racisme de la population, ça dépend aussi de la couleur politique du gouvernement. Et alors eux, ils disent que quand la droite est au pouvoir, la tolérance progresse, alors qu'elle recule quand c'est la gauche qui est au pouvoir. Et eux, ils disent, en gros, alors ils s'appuient sur une recherche anglo-saxonne de sciences politiques, selon laquelle les citoyens ont des demandes politiques de droite lorsqu'un gouvernement est de gauche et vice-versa. C'est juste un petit réflexe comme ça d'être contre le gouvernement. Après, en l'occurrence, un gouvernement de gauche, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, et pourtant, en matière de formation de stéréotypes, la responsabilité des médias, des pouvoirs publics et des hommes et femmes politiques est majeure. Donc eux, ils disent la manière dont on parle des immigrés et des minorités, la rapidité à les défendre et à lutter contre les propos xénophobes sont essentielles pour empêcher les individus de basculer ou rebasculer dans les préjugés. Alors c'est moins vrai qu'à une époque le fait que les gens diplômés seraient un petit peu plus prudents pour dire des grosses conneries racistes. Et aussi les électeurs de gauche basculent à leur tour, dit l'article dans lequel j'ai puisé tout ça. Et donc le rapport dit, même dans le camp idéologique où les valeurs d'ouverture sont les plus fortes, donc globalement la gauche, où pour beaucoup elles font partie intégrante de leur identité politique, les digues sont en train de se fissurer, et en particulier en ce qui concerne l'islam. Alors, à propos d'islam, du coup, cette commission s'attarde sur le terme d'islamophobie, un terme qu'elle n'avait pas voulu utiliser jusqu'à l'année dernière. Et puis là, finalement, ils ont décidé que si, et ils l'argumentent en long, en large et en travers. Alors, ils commencent par dire qu'on peut pas nier que le mot fait aujourd'hui partie du paysage politique, médiatique et institutionnel. Qu'il est notamment illustré par une actualité tout à fait prégnante à l'occasion de faits divers inquiétants qui se sont succédés, comme par exemple, et ça semble-t-il, il s'en est passé un certain nombre pendant l'année 2013, des agressions ciblant des femmes voilées. Alors, outre ces violences qui sont de plus en plus fréquentes, l'institution met en avant plusieurs arguments pour l'utilisation du terme d'islamophobie. Alors, eux, bon, ils disent, hein, mais c'est ce qui est vrai, quoi, que le terme, il est imparfait. Il est pas top à cause de ce suffixe phobie, là, qui parle comme une sorte de peur maladive, quoi. Et qui, en ce sens aussi, déresponsabilise le coupable ou la coupable. Mais en même temps, ils disent que c'est pas que à cause de ça, on va pas rayer de notre vocabulaire xénophobie ou homophobie, qui aurait un peu le même problème, quoi. Le terme, par ailleurs, s'est imposé partout dans le monde. Depuis les années 90, la plupart des institutions internationales de défense des droits de l'homme et de la lutte antiraciste le reprennent. Enfin et surtout, il sert à désigner une réalité actuelle, puisque les contours du racisme évoluent, que sous couvert de défendre la laïcité ou l'égalité homme-femme, de nombreuses voix revendiquent une parole stigmatisante à l'égard des musulmans. La critique de l'islam qui, bon alors du coup est évidemment légitime, c'est normal qu'on ait le droit de critiquer l'islam, mais elle devient, c'est pas fou ce que je dis, hein, mais voilà, là on l'a dans un rapport écrit entre autres par des socialistes, etc. quoi. La critique de l'islam devient un paravent légal pour discriminer les personnes assimilées, à tort ou à raison, à cette religion. Le racisme a subi un profond changement de paradigme dans les années post-coloniales, nous dit la commission, avec un glissement d'un racisme biologique vers un racisme culturel. Et donc, se cachant derrière ce nouvel habillage, le terme d'islamophobie a été utilisé par des groupes politiques pour fédérer un électorat plus large et revendiquer le droit d'exprimer sa détestation de la religion musulmane et du coup des musulmans. Plus inquiétant encore, une certaine frange radicale franchit le pas, et selon eux, l'islamophobie relèverait de la liberté d'opinion et d'expression, et à ce titre, les manifestations de haine y inspirées par l'islamophobie, que ce soit à l'encontre du culte musulman ou de ses croyants, ne devraient pas tomber sous le coup de la loi pénale. Suivant ce dangereux raisonnement, l'agression d'une femme voilée ne serait qu'un acte de militantisme contre une pratique qui est une forme d'oppression à l'égard des femmes. Donc face à ce danger, la Commission considère qu'il convient de nommer ce que l'on dénonce et souhaite combattre, et donc affine la définition de l'islamophobie, qui désigne un phénomène visant l'islam et les musulmans, et se manifestant à travers des opinions ou des préjugés négatifs, souvent à la source de rejet, d'exclusion et de discrimination. Alors, c'est pas tout ça, mais il n'y a pas que les musulmans, et donc la question se pose de savoir s'il va falloir fabriquer un mot pour signifier le rejet spécifique dont les Roms font l'objet. L'autorité administrative, donc la commission toujours, hein, indique qu'elle a été contrainte de créer un indice particulier pour prendre en compte le caractère massif de l'hostilité à l'égard des Roms. Elle recense les préjugés innombrables qui les assimilent à des voleurs exploitant les enfants. Et des entretiens en face à face qui ont été faits là, avec un institut de sondage, montrent les appréciations négatives que les Roms suscitent. En vrac, alors aversion, dégoût, accusation d'impureté, refus du contact, déception et frustration due à leur incapacité supposée à changer, mépris et même haine en liaison avec la croyance dans leur différence et leur infériorité. Et donc là, par exemple, il cite un témoignage, mais eux, ils trouvent qu'il est qu'il représente bien des tonnes de témoignages qu'ils ont entendus. Une femme qui a 57 ans, qui est secrétaire, qui habite à Paris, qui est catholique non pratiquante, qui vote PS. Et qui dit, je ne suis pas raciste, elle est pas raciste, mais je ne peux plus voir les Roms, c'est de la vermine, ils volent les sacs à main, ils agressent les vieilles dames, ils maltraitent leurs chiens, je donne à manger à leurs chiens, mais pas aux Roms. Voilà, comme ça au moins on sait où on en est, cette dame est donc, elle vote au PS, quoi. Cette population est la moins aimée des minorités, c'est ce que conclut la commission. Perçue comme séparée du monde, elle se voit reprocher à la fois d'être hors système tout en profitant du système. Et puis là, du coup, qui on a ? On a Manuel Valls qui avait déclaré, entre autres, que les Roms sont des populations qui ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation. Donc Manuel Valls n'a pas contribué à arranger les choses. C'est ce que dit la commission pour terminer.
Et il avait même pas dit que ça, Manuel Valls. Il avait même dit que c'est une population qui ne veut pas s'intégrer.
Et qui a destination à rentrer chez elle, ce qui lui vaut le fait de comparaître pour incitation à la haine raciale, plainte posée par La Voix des Roms, une association qui soutient les Roms en France.
Au moins, aucune info. On a la mémoire des propos de Manuel Valls.
Ouais, attention. On te suit.
Alors, je vais parler un peu des poissons d'avril. Alors, mardi matin, je me suis réveillée et j'ai entendu que Valls était Premier ministre. Alors, j'ai trouvé que c'était un bon poisson d'avril. Puis, en fait, après, je me suis rendu compte que non. Mais par contre, un des poissons d'avril s'est glissé dans le journal de 8h de France Inter. Et ça annonçait que la tour Eiffel avait été vendue au Qatar. Et donc Anne Hidalgo, qui est la nouvelle maire de Paris, s'était décidée à vendre la tour Eiffel, donc des détails, 700 millions d'euros pour la rénovation de l'emblème parisien, et de se remémorer que l'émirat avait proposé début février d'acheter le monument, et ils sont amusés à faire un petit micro-trottoir sur l'impopularité de cette mesure, voilà. Mais le meilleur poisson d'avril, c'est il fait boum. Et donc ça se passe à Saint-Étienne. Un inconnu a déposé une fausse bombe rue des Trois Glorieuses. Donc comment se présentait la chose ? Donc d'après le Progrès, la fausse bombe était dans un sac plastique noir. Celui-ci contenait une bouteille de gaz de 13 kilos, des fils et des bâtonnets, sans oublier l'inévitable réveil et son tic-tac. Le tout était posé devant la porte d'un restaurant. Donc le propriétaire des lieux l'a découvert à 8h du matin, comme il a un peu flippé, il a appelé les flics qui ont commencé à faire un premier périmètre de sécurité assez large autour du sac. Comme c'était un secteur passant qui desservait différentes directions, donc ils ont empêché les humains et les voitures de passer, et ils ont fait rentrer des enfants dans leur classe, etc. 10h, les démineurs de sécurité civile de Lyon arrivent, donc le périmètre de sécurité est encore augmenté. Et là, ils sont 10, vous voyez, ils sont 3 super sérieux avec les petites gouttes de sueur à enlever le sac plastique noir. Et là, ils voient un petit poisson sur la bouteille de gaz. En vrai, ça les a vraiment énervés parce qu'il y a eu 4 équipages de policiers qui ont été mobilisés, ainsi qu'une équipe de commandement et de l'identité judiciaire. En tout, une vingtaine de fonctionnaires de la police nationale, sans oublier la muni de Saint-Étienne. Mais ce poisson va coûter cher à la personne qui, heureusement, n'a pas encore été retrouvée, puisqu'il y a une enquête de sûreté départementale qui a été ouverte pour le motif de divulgation de sinistres de nature à déclencher l'intervention des secours. Et ce truc-là pourrait être condamné avec 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mais c'est très très drôle.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on le traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info contre la machine à expulser.
Alors, une équipe de journalistes européens ou européennes, on sait pas, a mené une enquête pour établir un chiffre sur le nombre de migrants morts pour avoir tenté de passer une frontière, dans l'Europe. Alors, pour ça, ils ont recoupé les chiffres de United Against Racism, c'est une asso européenne qui elle-même regroupe les informations de 550 ONG européennes et les chiffres de Forteresse Europe, c'est une association montée par un journaliste italien qui a fait ça, il me semble, suite à Lampedusa, là, au nombre morts qui sont de migrants qui sont morts en atteignant cette île. Pardon. Alors, après un travail minutieux pour enlever tous les doublons et vérifier les données, l'équipe est arrivée à la conclusion qu'il y a eu au moins 23 858 migrants morts ou disparus aux frontières de l'Europe entre 2000 et 2014. Alors, quand on dit disparu, il faut bien comprendre que c'est pour les personnes dont on n'a jamais retrouvé le corps et bon, il y a de grandes chances qu'elles soient vraiment mortes. Enfin, je veux dire, c'est pas des gens qui ont juste disparu dans la nature. C'est le plus du double des estimations qui existaient jusqu'à maintenant. Bah, ça, c'est parce qu'on l'aura bien compris, c'est pas les États qui mettent en place ces politiques migratoires criminelles qui vont mettre des moyens pour comptabiliser le nombre de migrants morts. Derrière ces chiffres, il faut comprendre que c'est directement le durcissement des contrôles aux frontières mis en place par l'Europe qui est responsable de ces morts. Alors on en avait parlé il y a 15 jours où un mur, par exemple, a été construit à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Et depuis cette construction, les migrants sont obligés de prendre la mer pour tenter la traversée. Le nombre de morts a considérablement augmenté depuis, alors que le nombre de tentatives de passage n'a pas baissé. Une cartographie a également été réalisée et on peut voir que les endroits où il y a le plus de morts sont les endroits stratégiques de migration et donc les endroits où les frontières sont le plus fliquées. Par exemple, une des frontières où il y a le plus de morts se situe au large des côtes de la Tunisie, qui est du coup le passage connu pour atteindre Lampedusa. Mais il y a aussi le détroit de Gibraltar, il y a également au large des côtes turques pour rejoindre la Grèce, passage emprunté par les candidats à l'exil turc et syrien, et également du reste de la péninsule arabique. Et il y a beaucoup de morts dans le désert libyen. Alors ça, c'est un passage de l'Afrique subsaharienne qui passe par la Libye pour ensuite rejoindre Lampedusa. Et il y a également, oui, donc voilà, il y a aussi ça. Il y a aussi il y a aussi pas mal de morts aux côtés des îles Canaries et du côté de Madagascar. Voilà. Et on sait que cette estimation est sans doute bien en dessous de la réalité, car beaucoup de migrants meurent et disparaissent sans laisser la moindre trace.
Il faut que ça sache.
Et pour finir, ce faut que ça sache, comme d'habitude, c'est traditionnel. On va du côté de l'Italie et c'est à Turin où encore du grabuge, où il y a encore du grabuge du côté du CIE de Trapani Milo. Les retenus ont escaladé les premières rangées de grillage qui les séparent de la liberté pour exiger des produits de première nécessité. Alors là, ils n'avaient pas comme but a priori de s'échapper, mais juste voilà, comme pour foutre un peu la pression aux flics. Alors ces produits de première nécessité étaient indisponibles depuis que la coopérative Oasis qui gérait le centre est partie. Alors parce qu'en Italie c'est pas tout à fait comme en France, c'est un peu des espèces, c'est les associations type Croix-Rouge ou la Oasis qui ont la gestion interne du centre et qui, où il y a effectivement des flics à côté d'eux pour maintenir les gens à l'intérieur. Suite à ces affrontements avec les flics, du coup il y a un retenu qui a pris un coup de boule alors que le flic était muni de son casque et de toute sa tenue anti-émeute. Il s'est fait fracturer le nez et n'a pas été conduit à l'hôpital. Les retenus se sont calmés quand le directeur du CIE a promis que la Croix-Rouge arriverait le lendemain et donc que les produits de première nécessité feront leur réapparition. Et on a fini avec ce faut que ça sache et on a l'agenda.
Agenda est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a une information, puisque il y a une manifestation du jour de colère, vous vous souvenez, c'était le 26 janvier, et bien ils vont recommencer, et ça sera le samedi 5 et le 6 avril, c'est un appel national, et donc il y a des personnes qui s'organisent pour pas les laisser faire cette fois leur jour de colère. Et du coup, il y a un rassemblement qui est prévu le dimanche 6 avril à 13h, place de la République, donc pour s'opposer aux fascistes et aux réactionnaires en tout genre. Et du coup, je cite un tout petit bout de leur texte. « Ne nous trompons pas de colère, riposte et solidarité populaire, unité antipatriarcale, antifasciste, anticapitaliste, fasciste, réac, hors de nos rues. »
Mais ça, c'est à Lyon ou...
Oui.
Mais c'est où ? Il y a
je viens de dire. C'est place de la République, le 6 avril à 13h.
Et bon, on a fini avec ce Canu Info. Il est 8h... moins 2.
Voilà. 19h59.
Et bah, ciao.
Ciao, à la semaine prochaine.
Avec un peu des bandes continues et pour laisser la place à Idée Noire. Bonne soirée.